Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas ? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont les héroïnes du quotidien.
Oui, bonjour.
C'est quoi pour toi une héroïne ?
Alors, une héroïne, c'est une personne qui fait plein de choses. Voilà, alors ça peut être des choses pour soi-même, mais ça peut être des choses aussi pour la société, qui peut avoir un impact aussi vis-à-vis des gens. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Essayer de sauver le monde un peu.
Ouais.
Voilà. À notre niveau.
Ça fait longtemps que tu essayes de sauver le monde.
Ah oui, je crois que depuis ma naissance. Hein, parce que déjà, je me battais déjà contre la vie, puisque je faisais 1,2 kg.
Wow.
Donc, voilà, j'ai passé 4 mois en couveuse.
Ah d'accord, oui, tu as réellement démarré de tout début.
Oui, de tout début, ouais. Donc voilà. Et puis, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin. Après, moi, j'ai une double culture aussi, donc ça n'a pas été facile.
C'est quoi ta double culture ?
Donc, j'ai mon père qui est algérien, ma mère qui est française.
Ouais. Donc, tu avais ces deux rivières-là.
Deux rivières, donc quand tu es petite, ça va.
Ouais.
Mais arrivé à l'adolescence, bah, tu deviens rebelle, quoi. Donc, j'étais quelqu'un de très rebelle. Donc voilà, je comprenais pas ces interdits qu'il y avait. Donc j'ai
décidé. Parce que tu as hérité des interdits d'un côté, des interdits de l'autre.
Alors ma mère, après, elle est partie. Ah. Elle nous a quittés. Elle est partie, j'avais 9 ans, quoi. Et donc on s'est retrouvés avec une belle-mère.
Ouais.
Et du jour au lendemain, on n'a pas compris, quoi. Tu vois, tu mangeais du porc, t'en manges plus. Tu fais ceci, Ramadan, faut plus mettre de jupe, faut plus ceci, faut plus cela. Donc, je comprenais pas, quoi. Et donc à 15 ans, je me suis vraiment rebellé et ça allait vraiment pas. Parce que bah, je voyais mes copines qui sortaient, tout ça, et moi, je pouvais pas, quoi. Et donc, je suis parti vivre un an en Algérie, chez ma sœur.
Ah, tu avais une grande sœur là-bas ?
Oui, donc j'avais une grande sœur là-bas, mais elle qui était déjà féministe. Donc, donc voilà, qui se battait là-bas, elle aussi en Algérie. Et donc, elle m'a transmis ça, puisque moi, quand je suis arrivé dans... J'étais interne à l'école là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, c'est moi qui ai éduqué les filles, quoi. Voilà, parce qu'elles n'avaient pas de serviettes hygiéniques, parce que bah, voilà, les relations garçons-filles, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de relations entre filles. Hein. Donc voilà, hein, elles cherchent aussi de l'amour et tout ça. Donc voilà, moi aussi là-bas, bah, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'étais souvent avec les garçons et puis c'est interdit. Donc voilà, donc, j'ai failli me faire virer plus d'une fois. Puis un jour, bah, j'ai pété un câble là-bas et puis je suis revenu en France. Voilà, je suis revenu en France. Et...
T'en as appris quoi et retenu quoi de cette expérience de...
Alors ça va, j'étais chez ma sœur, donc ma sœur a me protégé aussi. Donc c'était une belle expérience. Quand je suis avec ma sœur, c'est toujours une belle expérience. Oui. Donc voilà, après c'est les interdits, c'est... Ils mélangent religion et culture, tradition, ce qui n'a rien à voir. Tu le comprends quand tu grandis, ça.
Oui.
Sinon, tu ne le comprends pas avant. Quand tu es jeune, tu ne le comprends pas. Tu te dis pourquoi moi, quoi. Pourquoi les autres les font et pas moi. Moi, je ne peux pas faire. Pourquoi je peux pas avoir de copains. Et donc, c'est pour ça qu'il se passe des choses. Et à un moment, par exemple, après, à 16 ans, je devais aider mon père aussi pour travailler. Donc, j'ai travaillé à 16 ans et j'allais à l'école en 3e, déménage. Sauf
parce
que
vous étiez beaucoup d'enfants et c'était pour rapporter des sous à la maison, quoi.
Ouais, bah oui, mon père a fait 10 enfants, hein, donc, donc il y avait beaucoup d'enfants à la maison. Donc après, avec ma belle-mère, on a fait 5, donc moi j'étais avec les 5. Et puis, donc j'ai travaillé, sauf que chaque fin de mois, mon père prenait ma paye. Donc voilà. Et puis j'ai rencontré mon futur mari. Donc j'avais 16 ans et demi. Et un jour, je me suis baladé dans Paris un samedi. Je m'en rappellerai toujours, hein. C'était un samedi, parce que je travaillais aussi le samedi. Et donc je dis au revoir à mon père. Et avec mon futur mari, on s'était promené et tout ça. Et l'heure est passée. Je ne pouvais plus rentrer à la maison.
Parce que j'étais trop...
Sinon, je me faisais tuer.
Ah ouais.
Alors, ou c'était je me faisais tuer, ou c'était le risque de partir en Algérie, de se faire marier. Et donc, je ne suis jamais rentré. D'ailleurs, j'avais tellement peur, tous ces interdits, que mon copain, il ne m'a pas touché pendant 8 mois. Quoi. J'avais trop peur. Et même quand je suis, alors ça je te le dis à toi, mais quand je suis passé à l'acte, il n'y avait pas de sang, quoi. Ils nous font chier avec leur sang. Alors, c'était pas normal quoi, pour moi. J'étais,
ah oui, ça,
j'étais pas une fille normale, donc je suis parti voir le médecin. Le médecin m'a dit, mais vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait normal, quoi. C'est, ouais. Donc voilà, donc j'avais appelé ma sœur et tout, paniqué. Donc voilà, donc après je me suis marié, il fallait absolument se marier parce que ça aussi c'était tabou. Donc être avec quelqu'un, donc à 18 ans pile je me suis marié. Donc j'ai eu 18 ans le 4 juillet, je me suis marié le 19 juillet. Ma soeur m'a dit, t'es sûr, tu veux te marier, il faut se marier. Donc j'ai appelé mon père pour lui dire que je me mariais, mais bien sûr il n'est pas venu.
Tu l'as jamais revu aussi?
Si. Donc après j'ai eu mes enfants, donc j'ai eu le premier, donc je suis parti avec mon premier voir mon père, qui n'a pas voulu me voir tout de suite en tout cas. Il a fallu attendre encore 2 ans, et puis là il a accepté que je rentre à la maison. Donc c'était un chemin déjà. Entre temps, bien sûr, j'allais voir mes frères et sœurs à la sortie des écoles, je ramenais les cadeaux de Noël, voilà, tout ça à côté pour pas couper le lien quand même, hein, qui était important pour moi. Et donc je suis resté marié, après j'ai eu mon deuxième, mon troisième, je suis resté marié 10 ans. Puis après j'en avais marre aussi, donc j'ai dit je m'en vais.
Deuxième saut quantique.
Voilà, je m'en vais, donc là c'était vers 29, 27 ans, ouais je crois, 27 ans. Donc je suis parti avec mes enfants.
Héroïnes du quotidien, des femmes pour apporter un éclairage différent sur le quartier.
Donc à 30 ans, j'ai pris ma vie en main avec mes 3 gosses. Donc, c'était une bataille aussi, hein, donc il fallait travailler, nourrir tout ça. Voilà, et puis j'ai été à un mariage, et une copine m'a invité en Normandie et j'ai rencontré mon conjoint actuel. Donc voilà, donc pendant 2 ans, j'ai fait les allers-retours Nantes-Paris.
Et lui, il était à Nantes.
Il est à Nantes et toute sa famille est à Nantes. Et puis après, bah, je suis venu m'installer à Nantes. Donc quand je suis venu m'installer à Nantes, j'étais à Saint-Herblain. Donc j'ai travaillé à la Bernardière et tout ça. J'ai fait ma formation, une formation d'art thérapeute. Mais il y a 20 ans de ça, l'art thérapie, c'était, on me regardait, même je me rappelle à Pôle emploi, ils m'ont dit, vous êtes sûr, c'est pas une secte? Je dis non mais excusez-moi, mais allez me chercher votre responsable, quoi. C'est pas possible quoi, de dire des choses pareilles, quoi. Donc j'ai fait ma formation, mais ça perçait pas, quoi. Et puis je comprenais pas aussi qu'à Nantes, il y a autant d'espaces verts et que les gens ne se les approprient pas, quoi, par rapport à Paris, quoi. Donc je me suis dit, je vais ouvrir mon garage, puis je vais faire des animations de rue. Alors au début, je ne savais même pas que ça s'appelait animation de rue. Je faisais des activités pour les enfants qui traînaient, quoi. Et on m'a comparé aux animateurs des années 60. Parce que c'était vraiment une table à tapisser. J'avais ouvert mon garage et j'ai fait mon premier projet qui s'appelait l'importance de vivre dans un quartier propre et agréable. Donc avec Nantes Habitat, Nantes Métropole, la ville de Nantes. Et j'ai fait l'inauguration de mon garage. Donc ce projet a duré 6 mois. Et donc c'est ça qui a aussi lancé l'assaut. Entre temps, bien sûr, j'avais pris des rendez-vous avec le CID qui existait avant pour écrire les statuts de l'association et tout ça. Et donc j'ai enlevé le mot art thérapie. Puis j'ai dit, bah, je laisse l'association Regard. Et donc l'aventure de l'association Regard, c'était en 2015. Avant, on était vraiment au tout début, on était au centre socioculturel du Jamais. Puis petit à petit, bah, après, on nous a donné des locaux, donc un T3. Donc on a fait grandir. Donc après, toujours grandir par rapport à mon vécu. Ce que je voyais sur le terrain ressemblait à mon vécu. Et donc c'était comment je peux changer les choses. Hein. Par exemple, centre de loisirs à moindre coût, le bien-être à moindre coût, parce que bah, moi, je n'avais pas eu de bien-être. Hein. Le goûter pour tout le monde, pareil, donc on fournit le goûter hein, au centre de loisirs et à l'accompagnement scolaire, parce que je sais ce que c'est un enfant qu'on va chercher à l'école et que la maman tend un pain au chocolat et que toi tu regardes, t'en as pas. Donc moi, je veux que tous les enfants, voilà, dans leurs yeux, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, les vacances, parce que j'ai pas eu de vacances non plus, voilà, accompagner les gens sur leurs difficultés.
Ça s'est monté facilement, tu as eu des obstacles?
Ah non, ça s'est pas monté facilement, parce qu'au début, on m'appelait l'SDF du social, sur Bellevue, parce que j'avais pas de locaux, donc je travaillais même sur des bancs, et puis j'allais taper aux portes pour dire, vous avez pas un bureau à me prêter pour que je travaille une heure ou deux. Donc ça, c'était Saïd Karoui avant. De l'équipe de quartier qui m'appelait l'SDF du social. Non, mais on me prenait pour une folle. Hein. Ouais. On me croyait pas. Au début, on me croyait pas. Puis petit à petit, on me croyait pas. On me disait que j'étais folle, quoi. Tout ce que je voulais faire, toutes ces envies d'avoir, de faire, de bouger les choses. Je me rappelle une fois quand j'ai voulu faire quartier jeu, le premier quartier jeu, c'était en 2012, je crois. Quartier jeu, c'est une manifestation qu'on fait, où il y a le jamais derrière, où il y a les jardins familiaux maintenant. Avant, il n'y avait pas tout ça, donc on prenait tout l'espace et on fait sur une thématique, ça peut être le pirate, cette année ça va être sur le cirque. Et donc on fait plein d'animations, ça permet d'être visible, ça permet d'informer les familles, de dire qu'on est là cet été, s'ils partent pas en vacances, de prendre le pouls sur leurs difficultés, de les informer de ce qu'on fait, quoi. Et donc, je me rappellerai toujours, j'étais partie voir Nantes Habitat pour avoir cet espace, et donc j'ai expliqué le projet en disant qu'il allait avoir des poneys, des chevaux. Et la dame, elle me dit, oui, d'accord, ok, c'est bien. Puis le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, excusez-moi, je crois que j'ai mal compris, c'est bien des chevaux que vous allez faire venir. Oui. Je lui dis, ça pose problème. Elle me dit, je ne sais pas, on ne m'a jamais posé là. Moi, je m'ai dit ça, quoi. Non, mais vous inquiétez pas, ça, tout va bien se passer. Donc voilà, et puis le quartier jeu, maintenant, ça existe depuis, tu vois, 2012. Donc,
on te disait au début toujours, c'est impossible ce que tu...
Ouais, et puis moi, impossible n'est pas français pour moi. Alors moi, plus on va me dire c'est impossible, plus je veux faire.
Comme on m'a une héroïne têtue.
Ouais, comme on m'a toujours dit au début quand je demandais des locaux ou même de me salarier, on me disait, mais tu sais, t'as des associations, ça fait 10 ans qu'ils attendent, donc tu crois pas que toi tu viens d'arriver, tu vas avoir ça. Puis là, j'ai regardé la personne, je lui dis, tu sais, moi, il faut jamais me dire des choses comme ça. Et donc, jusqu'à maintenant, elle se rappelle parce que quand on se voit, elle rigole. Donc voilà. Donc je suis toujours quelqu'un qui me bat pour les autres et je monte au créneau. Alors quand il y a l'humain derrière, je monte au créneau. Parce que pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser les gens dans la misère. C'est pas... On est en France, quoi, on n'est pas...
C'est quoi derrière? C'est de la colère, c'est de l'amour, ça peut être les deux d'ailleurs, c'est quoi qui te donne cette énergie?
Alors je pense que c'est par où je suis passé, c'est toutes les batailles que j'ai dû mener pour arriver où j'en suis. Et je pense que tu as raison, peut-être au fond de moi, peut-être il y a de la colère parce que ben, moi on n'a pas su voir, peut-être à l'école, on n'a pas su voir ces difficultés. Moi je peux voir un enfant qui souffre dans ses yeux, hein. Et je le dis, généralement je le vois et j'informe tout de suite, parce que c'est des choses que j'ai vécues.
Là, depuis 16 ans, là, ça concerne combien d'enfants sont passés par
Regarde.
Ouais, par Regarde.
Oh, bah, faut compter 200, à peu près 270 par an.
D'accord.
Ouais, et puis en tout, on a 600 adhérents à peu près. Un témoignage qui m'a vraiment touchée, c'est une dame qui est venue dans notre asso par hasard pour inscrire ses enfants. Et cette personne, c'était une femme battue. Et donc, elle avait été mise en, un peu, comment on dit, en isolement ici à Nantes, quoi. Et donc, un jour, elle me dit, bah, écoute Aïcha, est-ce que je peux avoir, tu sais où je peux trouver une gazinière parce que j'ai pas de gazinière chez moi. Je dis, ah bon, bah, comment tu fais pour donner à manger aux enfants? Elle avait trois enfants. Elle me dit, bah, je chauffe pas, quoi. Ah bon. Après, je lui dis, d'accord, je vais trouver une gazinière. Donc, je vais trouver une gazinière. Et puis, j'ai appelé un pote qui a un camion et je lui dis, bah, écoute, est-ce que tu veux bien? Là, c'est une dame qui a besoin. Puis, je me suis dit, bah, je vais accompagner parce que, comme c'est une femme battue, un homme. Donc, j'ai accompagné. Donc, j'arrive dans cette maison. On met la gazinière, on branche la gazinière. Et la petite, qui doit avoir 10 ans, elle me dit, tu veux que je te fasse visiter la maison? Je lui dis, si tu veux pas, je peux être intrusive. Hein. Elle me dit, non, mais ça me fait plaisir. Je lui dis, d'accord. Vu qu'on me fait visiter la maison, ben, pas grand-chose en meubles. Puis on arrive dans la chambre de sa mère. Et là, la petite, elle me regarde, elle me dit, t'as vu, j'ai fait une armoire en carton à maman parce pour qu'elle range ses affaires. Mmh. Et là, je dis, c'est pas possible. Mmh. Et j'avais les deux petits qui étaient, c'était 4 heures, ils étaient en train de manger un demi-pamplemousse à deux. Mmh. Et là, j'ai attrapé la maman, je lui dis, écoute, je sais que c'est compliqué, et je sais que des fois, il faut savoir avaler sa fierté. Donc, est-ce que tu as besoin d'autre chose? Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, ben, j'ai rien. Elle n'avait plus de gel douche, pas de papier toilette, pas de ceci, pas de cela. Donc j'ai essayé d'appeler les élus pour voir si je pouvais avoir une aide, tout ça, mais c'était pas loin de Noël en plus. J'ai appelé mon CA, je lui ai dit, bah écoutez, là je fais quoi? Je fais faire des courses moi, même si vous voulez pas, je paye moi-même quoi. Ils m'ont dit non, bah. Donc j'ai quelqu'un du CA qui m'a dit, attends bien. Donc je suis parti, j'ai acheté plein de courses, des Kinder, plein de choses. J'ai rempli au moins 2-3 caddies. On lui a ramené, et la dame, la petite, le mercredi, elle avait centre de loisirs, elle a dit, oh, il y a une dame qui est venue, c'était comme Noël, elle nous a ramené plein de choses. Donc, ouais, ça, c'est un témoignage qui va me marquer, qui me marque, ouais. Ouais. Alors moi je suis peut-être un peu spécial, mais je pense pas comme ça moi, je suis fier, pas fier, chaque jour je tourne une page et je reviens pas dessus, j'avance, parce que si je regarde derrière, des fois ça peut-être me ralentir, d'ailleurs avec tout ce qui s'est passé, bien sûr, j'ai eu le droit au psy, machin, ils me disent que je suis une résiliente, donc... Et donc, c'est ma façon d'être, quoi. Le matin, je me lève, la vie est belle, quoi. La vie est belle et j'avance et je monte des projets et je me dis pas ça va marcher, ça va pas marcher, pourquoi ça va pas marcher. Je me pose pas 50 000 questions. J'ai une idée, je la mets en place. Ça marche pas, ben, j'aurais essayé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on me prend pour une folle. Et j'aime pas trop les réunions non plus, parce que pour monter des projets, t'as pas besoin de 50 000 réunions. Donc oui, bien sûr, il faut qu'on ait plusieurs, une réunion, deux réunions, mais après, il n'y a pas besoin de 50 000 réunions pour pouvoir monter un projet, pour faire quelque chose sur le quartier, quoi. Donc, fier, je sais pas. Alors ça, j'ai vraiment, où j'étais contente d'avoir réussi ça, c'est quand j'ai vu la Légion d'honneur. Et là, quand j'ai vu toute ma famille, j'ai vu tous mes amis, toutes les assos, on était, je sais pas, 200 personnes.
T'as pleuré?
Ah oui. Ah oui.
Une héroïne, ça peut pleurer aussi.
J'ai pleuré. Ma sœur a raconté un morceau d'histoire, mais une histoire, comme on dit chez nous, c'est une, avec le mot kabyle, même j'arriverai pas à le dire, c'est... Oh, j'arrive pas, je pourrais te le montrer, l'histoire qu'elle a marquée. Elle a dit, je vais raconter une histoire, mais le mot histoire, elle le dit en kabyle, mais moi j'ai oublié le mot. Et donc elle commence à raconter cette histoire. Et... Donc là, c'était très émouvant. Mon fils qui a 30 ans maintenant. Donc ça, oui, je pense que ça, c'était une... Parce que après... Faut pas croire, mais tous les combats qu'on mène, je veux dire, on embarque la famille, quoi. Et le monde associatif, il y avait quelqu'un...
Quand tu dis on embarque la famille, c'est-à-dire que de toute façon...
Ils en pâtissent.
Ouais.
Ah bah c'est automatique, parce que bah, manque de présence, tu travailles à gogo, on compte pas nos heures. Donc plus d'une fois, je me suis dit, je vais rentrer, je vais trouver mes bagages dehors, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très lourd à porter, hein. Donc si on n'a pas un conjoint qui comprend ou qui est un petit peu dedans, et après les enfants au début ils ne comprennent pas, mais quand ils grandissent après ils comprennent, puisque mes gamins je les ai tous élevés là-dedans, donc même maintenant le grand, jamais il va me dire tu vends mes affaires, il va me dire tu les donnes à l'assaut, quoi. Donc oui, obligatoirement on emmène tout le monde, hein, et Et donc là, c'était en même temps un remerciement à tous ces gens là, qui m'ont accompagné, qui m'ont porté, qui m'ont aidé.
C'est-à-dire quand tu avais 9 ans, tu n'aurais jamais imaginé qu'un jour tu te retrouverais dans cette situation-là avec tout ce monde autour de toi et la Légion d'honneur.
Et la Légion d'honneur, même pour ma soeur, pour moi.
Quand même. Ça s'est passé comment? T'es allé à l'Élysée et tout ça? Comment ça
s'est passé? J'ai pas voulu moi aller à l'Élysée. Ah non, je voulais pas Macron moi.
Ah, c'était Macron bien sûr.
Ah non, c'est Johanna Roland. Moi. Je me demande Johanna Roland et c'est le président de l'Observatoire de la laïcité qui me l'a remise. C'est Jean-Luc Bianco, parce qu'on doit choisir quelqu'un qui a lui-même la Légion. Donc Jean-Marc Ayrault ne l'ayant pas, je ne pouvais pas lui demander. Mais il était là. Tous ces gens-là étaient là. Tous les élus étaient là. Non, c'était une très très belle cérémonie. Tout le monde pleurait. Dans la salle, bah oui, avec les histoires, tout le monde pleurait, quoi. Parce que bien sûr, j'ai pas fait comme tout le monde. Donc voilà, donc j'ai choisi des gens qui ont parlé pour moi. Et puis après, moi, donc il y a eu Johanna, après il y a moi qui a pris la parole. Et après,
c'est. Tu l'as plu ?
Si.
Tu veux pas me le lire ?
Ah oui. Il faut que j'aille le chercher. Alors est-ce que je l'ai dans mon cahier ?
Un autre regard sur le quartier.
Voilà marqué, mesdames, messieurs, chers amis, chères familles, chère petite sœur, Aoultma Azizen. Dans les souvenirs de mon enfance, les histoires de notre père. Je ne vais pas arriver à le lire, donc je te laisse le lire. Ah oui. Ah oui, c'est trop fort.
Les histoires de notre père commençaient ainsi. Ma Chaou. Que mon histoire
c'est
soit
ça,
belle.
Ma Chaou.
C'est beau. Que mon histoire soit belle et se déroule comme un long fil de soie. Écoutez que je vous conte la mienne. C'est l'histoire d'une petite fille déjà vive et dynamique qui a su tout au long de son enfance se forger un caractère, celui qu'on connaît aujourd'hui. Elle aurait facilement pu se perdre dans cette enfance voleuse d'enfants, mais n'a pas eu de mal à grandir. Puis c'est l'histoire d'une jeune fille déjà touchée et révoltée par l'injustice qu'elle croisait. Injustice qu'elle exprimait dans le respect d'autrui avec toute la fermeté dont elle était capable. C'est aussi l'histoire d'une mère, au regard attentif, à l'écoute bienveillante, sensible aux besoins du cocon familial et présente à chacun. Le temps passant, ce parcours de maman affectueuse et tenace face au mouvement du quotidien a révélé sa nature profondément humaine. Et de surcroît, c'est l'histoire d'une femme engagée, sensible aux soucis, aux malheurs d'autrui et surtout efficace pour venir en aide. Nous savons la femme généreuse qu'elle est. Stimulée à apprendre et prendre des risques pour oser faire, elle s'est dit « À quel monde vais-je contribuer ?» Sa réponse fut celui de la bienveillance. Elle y répond présente et ce avec beaucoup de détermination. Son engagement, sa personnalité sont toujours à l'écoute. Pour ceux qui la connaissent dans son travail, c'est la femme passionnée au caractère bien trempé, toujours prête à lever le poing, souvent pour la bonne cause. Petite sœur, cette histoire est la tienne. J'ai été le témoin souvent à distance, mais toujours très proche. Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue pour les nôtres qui sont partis trop tôt et qui aujourd'hui seraient si fiers. Ces aléas douloureux et ce combat intérieur t'ont sans doute permis de te construire dans la non-violence, la bienveillance, la résilience. Épanouie, tu continues de semer, de chercher. En attendant tes prochaines créations, ta bienveillance, ta gentillesse restent contagieuses. J'ai bien compris que c'était ainsi que tu avances et pour trouver la sérénité, un équilibre personnel et professionnel. Petite sœur, Aoultma Azizen, magicienne de la vie, exceptionnelle, tu l'es. Cette prestigieuse distinction, amplement méritée, récompense bien ton engagement. L'émotion est très vive. Merci à toi, petite sœur, de m'avoir fait partager ce moment inoubliable. Je te renouvelle publiquement ma fierté de te voir honorée. Quelle émotion! Quelle émotion pour toi, pour moi, pour notre famille, que c'est un signe de chevalier. Je suis heureuse et fière, je suis heureuse d'être la sœur de ma sœur.
Waouh! Ah oui, je comprends. Tout le monde pleurait, regarde, tu vois.
Ah ouais, bah même moi, tu vois.
Elle est belle, hein?
Elle est belle, ouais.
Voilà, mon histoire. J'essaye d'être bien et de faire du bien aux autres. Après, quand il faut se battre, je me bats. Je pense que j'ai les armes pour me battre maintenant avec tout ce que je me suis battu dans la vie. Et puis j'avance, hein, j'avance. Donc l'assaut maintenant, voilà, elle roule avec ses hauts et ses bas. Hein, donc,
Mais tu fais d'autres choses, tu m'as dit.
Voilà.
Tu m'as dit que tu te levais tous les jours.
Et donc, bah oui, parce que pour, donc, j'ai laissé mon poste de. Il y a 4 ans de ça, j'ai laissé mon poste. De directrice à l'association, donc j'ai passé le relais et j'ai créé ma boîte de jeux. Je me suis dit il faut que je fasse autre chose et donc je me suis dit mais quoi de mieux d'apprendre par le jeu aux enfants et donc j'ai créé mon premier jeu sur la laïcité qui s'appelle Laïcité, donc qui a reçu un prix aussi, le prix de l'Observatoire de la laïcité. Puis je me suis dit, ben, je ne vais pas m'arrêter là, j'en ai comme mon deuxième. Et là, je suis à. Là, il y en a 3 autres qui vont bientôt sortir, là, qui s'appellent Ma République et les institutions. Parce que ben, c'est un vrai bordel hein, quand tu n'es pas dedans et que tu comprends. Donc, comment on peut dire à des jeunes de comprendre leur République, d'aimer leur République s'ils ne la comprennent pas? Déjà, un. Au vote citoyen, le deuxième jeu. Parce qu'il faut voter. Il faut aller voter pour donner sa voix, pour porter sa parole. Et puis la troisième, c'est sur la liberté d'expression et je l'ai appelée « Nation, j'écris tes mots ». Donc ça, c'est les 3 derniers qui vont sortir. Et donc avec ces 3-là, je serai à 44 jeux.
Tu as monté une entreprise?
Oui.
De création de jeux.
Voilà.
Et puis tu fais encore autre chose?
Et donc en bas, j'ai mon institut de beauté.
C'est ça.
Et je fais des massages. Voilà, donc je suis formée à différents massages. Mais ça, c'est vraiment un bol d'air aussi pour moi, parce que quand je masse, ben, comme je dis aux gens, vous m'apportez autant que je vous apporte, quoi. Parce que c'est un lieu où je réfléchis pas, quoi. Je pense pas. Je pars avec eux, quoi.
Tu n'étais pas aux 35 heures, toi ?
Ah non, moi je me lève à 5h30 le matin. Et je me couche à 23h des fois. Je dois dormir 5-6 heures par jour. 5 heures, 6 heures. Mais ça ne me dérange pas de me lever. Je préfère me coucher plus tôt et me lever même à 3 heures du matin s'il faut. Parce qu'en même temps, c'est calme et j'avance plus vite, quoi.
Tu as l'air de convenir, tu n'as pas l'air d'être plus fatigué que ça ?
Non, et je fais du sport tous les matins. Tous les matins, je fais du 10 km à vélo. Et puis mon jardin, mes tisanes. Cuisiner, j'adore cuisiner. Mais voilà, j'arrive à jongler avec le tout, je sais pas. Faut pas me poser la question comment tu fais parce que je ne sais pas non plus. Après, je pense que c'est pas le fait de donner l'énergie. Parce que quand t'as trop d'énergie, l'évacuer en faisant des projets, en faisant des choses, c'est bon. Tu vas être sinon survolté, quoi, si tu donnes pas l'énergie à faire d'autres choses, quoi. Après, ce qui nous fragilise, je pense, c'est les coups bas. C'est les coups qu'on a. C'est quand tu crois à l'humain et que tu reçois des coups, bah, c'est difficile, quoi. C'est difficile de se relever et de dire, bah, tout le monde n'est pas pareil. Il faut que tu continues à te battre. Il faut que tu continues. Voilà.
Comment tu fais dans ces cas-là ? Comment tu t'en sors ? C'est quoi ton secret de résilience ?
Alors, toujours me dire que la vie est belle. Et j'essaye de me dire que tout le monde ne fait pas partie du même panier, quoi. Parce que si on met tout le monde dans le même panier, bah, c'est pas bon, quoi. Déjà, on est dans un jugement et voilà. Donc, j'essaye de dire aussi, bah, peut-être si ça en est arrivé là, c'est voilà, peut-être les torts peuvent être partagés aussi. Donc,
si tu avais un conseil à donner à une jeune fille, qu'est-ce que tu dirais?
Une jeune fille qui veut s'engager.
Bah oui, qui arrive dans ce monde là, qui est quand même un peu compliqué, disons, difficile.
Qui a pas de barrière. Que les barrières, il faut les faire tomber. Et il faut avoir la niaque. Il faut avoir la niaque pour avancer. Et toujours, 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 ne pas oublier d'où tu viens et garder ton intégrité. Pas avoir la grosse tête. Malgré tout ce que tu fais, même si tu montes, il faut rester simple, quoi.
L'intégrité, ouais. Maniaque. Ouais.
Bah oui, moi quand je dis, si c'est ce que je dis à l'association, je dis si vous dites quelque chose à quelqu'un, il faut le faire, quoi. Parce que derrière, c'est une personne, quoi. Donc elle compte sur vous. Faut pas lui vendre du rêve, quoi. Moi je vends pas du rêve. Si je peux, je fais. Si je peux pas, je lui dis. Mais déjà, je m'avance pas. Je vais pas lui dire oui, je peux faire. Et c'est parce que derrière, ça fait mal, quoi, aux gens, ils comptent sur vous et donc ça sert à rien de dire à une personne oui je vais faire juste pour se donner de la valeur, quoi. Non.
Crimile, e crimile, shratala frangala.
héroïne du quotidien.
Alors, avec le parcours que je t'ai raconté, je me suis jamais posé la question, femme. Moi, je me lève le matin, je t'ai dit, je pose pas. Et si jamais on me le fait comprendre, bah là, c'est là que je vais faire deux fois plus, quoi, pour leur montrer que c'est pas parce que je suis une femme qu'on va pas le faire, quoi. Voilà, au contraire, il faut. C'est ça, casser les barrières, casser toutes les barrières, que ce soit les barrières discrimination, les barrières stéréotypes, les barrières. Toutes ces barrières-là, les préjugés, les. Alors moi, j'ai pas de croyance. Hein. Moi, j'ai ma croyance à moi, c'est celle du cœur. Je crois en quelque chose. Donc voilà, et pour moi, tout le monde a le même Dieu. Je sais pas c'est quoi ces histoires de. Après, ils l'ont appelé comme ils veulent, quoi, mais après, pour moi, il n'y en a qu'un, quoi. S'il y en avait un, mais en tout cas, il n'y en a qu'un, pour moi. Donc voilà, après, je pense que. Avant, il n'y avait pas tous ces problèmes de croyances, de religion. Je me rappelle, quand j'avais 15 ans, 14 ans, je veux dire, les anciens, ils faisaient leur religion tranquillement, ils étaient chez personne. Quoi. Il n'y avait pas. Maintenant, il y a une autre génération, il faut vraiment montrer. Est-ce que la religion, c'est se montrer, quoi ? Pour moi, la religion, c'est quelque chose que tu dois faire pour toi, quoi. Tu n'as pas besoin de le montrer à la place du monde, quoi.
C'est comme de montrer que tu fais des trucs.
Mais après, c'est mon avis, ça. Je sais pas. Le monde est en train de changer. Alors, c'est comme le monde aussi d'un point de vue des salariés. Enfin, ça bouge là, mais. Après, je peux entendre hein, qu'on a envie de changer un autre mode de fonctionnement et tout ça, mais on n'y est pas encore, quoi. Donc, il faut continuer à bosser, quoi. Et c'est difficile, hein. Pour les chefs d'entreprise ou chefs ou responsables d'association, c'est vraiment compliqué et je l'entends de plus en plus et dans tous les corps de métier quoi. Après, il y avait un ami qui m'avait formé au monde associatif. Il m'avait toujours dit, peut-être maintenant tu le comprends pas, mais tu vas le comprendre plus tard. Il m'a dit, le monde associatif, c'est comme le monde politique. Regarde toujours derrière ton épaule. Il avait raison. Il avait raison.
Dis donc, c'est ton...
Ma médaille.
Wow, je peux la prendre en photo?
Oui, si tu veux.
Merci, Aïcha.
De rien.
C'était les héroïnes du quotidien. Prise de son, interview... Angèle Goduchou. Montage, mixage, habillage sonore, Michele Batan. Création musicale du générique, Balthazar Baudin. Une production de la compagnie La Lune Rousse.